On est de retour en onde à l'émission La Rage du Peuple pour continuer avec l'interview qui va porter sur le coup d'État qui est survenu en juin dernier au Honduras. Puis on va avoir comme intervenant Jean-Martin, ce que tu souhaites présenter?
Oui, on va avoir Monsieur Antonio Arturo. Est-ce que vous êtes là, monsieur?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Salut Jean-Martin.
Ça va?
Oui.
Oui. Donc, Monsieur Antonio Arturo, quand on vous a demandé de faire une entrevue pour le Honduras, vous nous avez suggéré quelques chansons qu'on va écouter le long de l'entrevue. La précédente, c'était War de Edwin Starr. Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi est-ce que vous nous avez proposé cette chanson-là?
Bien, la guerre est liée à tout ce que je vais raconter.
Okay.
La guerre, c'est-à-dire, c'est nous avons eu en Amérique latine une série de guerres. C'est au fond des guerres, celles qu'on a lorsqu'on a une guerre civile, par exemple un coup d'État comme celui du Honduras, ça peut dégénérer en guerre. La guerre, ça représente l'impérialisme, ça représente le moyen qu'ont les pays développés d'écraser les pays sous-développés. C'est simplement pour ça.
Ah, c'est une
et aussi parce qu'il y a je pense que nous allons passer par une période de vietnamisation de la guerre, de l'Amérique latine, et parce que les États-Unis se préparent avec des bases militaires.
D'accord.
Oui.
Et puis, vous, Monsieur Antonio Arturo, vous avez fait un appel à travers un clip sur YouTube à participer à une manifestation contre le coup d'État au Honduras à Montréal le 11 août dernier. Est-ce
oui.
que ça a été un succès, cette manifestation-là?
Oui, je pense que ça a été un succès parce que nous avons eu beaucoup de personnes que nous n'avions pas avant. Un succès, c'est quoi? Je pense que nous étions 50 personnes. Mais il y avait différents groupes et le nombre de groupes qui viennent s'ajouter au groupe fondateur du comité, de notre front large contre le coup d'État au Honduras, montre qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inquiètent sur la situation au Honduras. Alors je pourrais en parler plus sur le Honduras, mais je pense que ça a été un succès. Nous étions aussi, le point que nous avons choisi, c'était le consulat des États-Unis, alors qu'avant, nous ne pointions pas du doigt les États-Unis. Maintenant, nous sommes arrivés au point où nous le pointons. Avant, nous avons commencé à demander au Premier ministre Harper de ne pas reconnaître le coup d'État. Le Canada ne reconnaît pas le coup d'État. Mais aussi d'exiger le retour immédiat du président Zelaya. Le Canada ne le demande pas, comme les États-Unis ne le demandent pas, et aussi de cesser l'aide militaire que donne le Canada et l'aide économique que donne le Canada au gouvernement putschiste, c'est-à-dire le gouvernement qui a fait le coup d'État, qui a fait le putsch au Honduras. Alors, si vraiment Monsieur Harper et le gouvernement canadien étaient sérieux, et si Monsieur Obama était sérieux, il suffit d'un coup de téléphone et de dire sortez d'ici en toute vitesse, le président légitimement élu revient au pouvoir, et sinon nous coupons toute aide. Mais les États-Unis sont en train de tergiverser, sont en train d'hésiter ou de confondre la population. Ils sont en train de dire, Madame Hillary Clinton a dit qu'il n'y a pas eu un coup d'État. Alors je vous demande ce que c'est qu'un coup d'État si on entre dans votre maison, dans la maison du président des États-Unis avec une mitrailleuse, on ouvre la porte, on l'envoie au Costa Rica on installe un nouveau gouvernement. Si ça, ce n'est pas un coup d'État, qu'est-ce que c'est? Et il y a une définition dans le droit international qu'un coup d'État, c'est un renversement comme ça, et le gouvernement canadien ne dénonce pas, n'exige pas le retour du président Zelaya, c'est-à-dire qu'ils sont en train de laisser le temps au gouvernement putschiste, le gouvernement qui a fait le coup d'État,
de s'installer puis de prendre ses assises. Ils sont en train d'aider, dans le fond, de la sorte, à travers une espèce d'ambivalence politique. C'est un peu qui ne dit mot qu'on sent, dans le fond. Là.
Il n'y a pas d'ambivalence. Si moi, je vous volais votre maison avec une mitrailleuse et que après le gouvernement de Harper ou de Obama vous demande de négocier avec moi, si la personne volée doit négocier avec le voleur, ce n'est pas une négociation, c'est un vol, c'est appuyer le vol.
C'est de la complicité, tout simplement.
C'est de la complicité totale. Okay.
Pour mettre en perspective ce qui s'est passé récemment au cours du Honduras, vous nous suggériez, pour comprendre ça, un peu de faire un retour en arrière pour un peu comprendre en quoi est-ce que l'Amérique latine serait la cour arrière de l'impérialisme américain. Comment est-ce que vous expliqueriez que l'Amérique latine est cette cour arrière-là?
Bon. J'aimerais que c'est très important que tous les militants, toutes les militantes étudient l'histoire, qu'on soit capable de défendre ce qui se passe, ce qui arrive. Les États-Unis sont nés premièrement du vol des terres aux Amérindiens. Ils sont arrivés là, ils sont arrivés en bons amis. Les Indiens les ont reçus, ils ont peu à peu volé les terres. Puis ils ont décidé de s'expandre, d'aller vers le Mexique. Ils ont pris le Mexique, ils ont pris la Louisiane, ils ont pris... Peu à peu, les États-Unis se sont consolidés. Ensuite, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait l'Empire espagnol, qui était un petit peu en Californie et qui était en Amérique latine, l'Empire portugais, l'Empire hollandais, les États-Unis ont dit, on va chasser tous ces gens-là. Et on va consolider notre État états-unien. Après la Révolution, lorsqu'ils ont chassé les Britanniques, ils ont dit, maintenant, on va commencer, après avoir fini la guerre avec les Peaux-Rouges, après avoir massacré des milliers d'Amérindiens, ça a été aussi l'esclavage des Africains, l'esclavage qui a permis l'enrichissement des États-Unis. Et ensuite, ça a été la fameuse guerre hispano-américaine. C'est en 1870, les États-Unis ont dit, maintenant, nous allons... la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. Mais c'est très confus, ce mot-là, parce que ce qu'il voulait dire, c'était les Amériques aux États-Unis. Alors, c'est ou l'Amérique aux États-Unis, si vous voulez. C'était finalement chasser les Espagnols à Cuba, aux Philippines et dans toutes les régions où se trouvait l'Empire espagnol et de créer un empire états-unien.
Je pense qu'il appelait ça un peu le destin manifeste des États-Unis, comme ça allait de soi que les États-Unis, en tant que porteurs de la liberté, débarrassent le nouveau continent de toutes les anciennes influences impérialistes de l'Europe, dans le fond.
Oui, colonialistes les États-Unis sont devenus impérialistes parce que l'impérialisme est né à la fin du 19e siècle, lorsqu'il y a eu la fusion des capitaux bancaires et des capitaux industriels pour former le capital financier. Et c'est à partir de là que apparaît le phénomène de l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, comme disait Lénine, c'est que la fusion du capital bancaire et du capital industriel dans un pays consolide la bourgeoisie, et la bourgeoisie est unie pour aller attaquer d'autres pays et développer les marchés, développer les mines, aller chercher des mines, aller couvrir des territoires. Ça, c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme est né, justement, la guerre hispano-américaine avec la guerre anglo-boer et la guerre japonaise-russe. Ces trois premières guerres mondiales ont été le prélude à la Première Guerre mondiale, où alors tous les États commencent à se mobiliser et tous les capitalistes essayent de repousser les frontières qui sont à leur frontière là, et d'aller empiéter sur les autres territoires, par exemple en Afrique. Alors lorsque les colonialistes se retrouvent nez à nez, ils commencent des guerres pour prendre un peu plus, des guerres tribales où ils commencent à mélanger les indigènes et les haines raciales ou à développer le nationalisme dans certains pays. Alors voilà.
C'est dans ce contexte-là que les États-Unis sont emparés de tout le continent américain, dans le fond.
Et c'est pas fini, parce que le continent américain, c'est-à-dire, vous le dites bien, il y a eu Il y a eu une indépendance, l'indépendance de Bolivar, San Martín, toutes les indépendances des années 1800. Ça a été des indépendances qui ont été aidées, au fond, par l'impérialisme britannique à ce moment-là. L'impérialisme britannique a aidé Bolivar avec des canons. Ce n'est pas simplement une révolution. Il y a eu un travail. À ce moment-là, Bolivar considérait que l'empire espagnol colonial et féodal était le retard le par rapport au progrès que représentait l'industrialisation britannique. Et alors il s'est appuyé, comme José Martí s'est appuyé sur les États-Unis pour renverser le gouvernement espagnol de Cuba. Okay. Mais il savait déjà qu'il disait dans la tête, nous sommes dans la tête du monstre, parce qu'il était aux États-Unis, et il se rendait compte qu'un jour les États-Unis allaient prendre. Alors, au fond, les chemins de fer d'Amérique latine et tout ça ont été construits par beaucoup de l'impérialisme britannique, mais c'est à la Première Guerre mondiale que l'impérialisme états-unien est devenu beaucoup plus fort que l'impérialisme britannique. L'impérialisme britannique a eu une guerre sur son territoire. L'Europe a été bombardée. Il y a eu 17 millions de morts, alors que les États-Unis n'ont pas eu de guerre sur le territoire états-unien. Il n'y a pas eu de guerre mondiale sur le territoire des États-Unis. Et ils ont fourni en armes toutes les puissances qui étaient en train de combattre en Europe. Donc, c'est au moment où l'impérialisme britannique décline que l'impérialisme états-unien prend le dessus et commence à avoir encore plus d'appétit et commence à installer alors une série de dictatures avec Theodore Roosevelt, les Rough Riders, qui étaient des cavaliers qui allaient dans toute l'Amérique centrale et qui imposaient des gouvernements pour les compagnies de bananes. Et le Honduras, c'est le cas d'une compagnie, d'un pays, une république de bananes, où on fait et on défait l'un après l'autre les gouvernements. Alors la classe dominante d'Amérique latine, ce sont des rapaces, ce sont des piranhas, ce sont des requins qui sont appuyés à tour de rôle par les États-Unis et par les forces des États-Unis, la CIA et tout ça.
Je pense qu'on va faire une pause, puis on va revenir tout de suite après la pause avec quelques exemples de coups d'État qui ont eu lieu, menés par la CIA et tout ça.
Ben oui.
Donc, vous écoutez...
Formidable.
Ça marche?
Excellent.
Donc, vous écoutez La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX. On est présentement en entrevue avec Antonio Arturo du Front uni contre le coup d'État au Honduras. Donc, à tout de suite.
Comment décrire la mixtion, si ce n'est que dire que c'est un savant mélange de sonorités multiples. Éclectique, mais toujours pertinente, la mixtion marie le jazz avec le hip-hop, le blues avec le soul, le dub avec l'électronique, avec une touche de musique du monde. Une heure de musique sans arrêt, sélectionnée et mixée par Éric Garand. La mixtion diffusée tous les samedis soirs de 19h à 20h sur les ondes CFLX FM 95.5. En alternance avec MPO FM, juste seulement les premiers samedis de chaque mois.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787 ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca.
CFLX te propose une expérience des plus enrichissantes en joignant son équipe de bénévoles dynamiques haute en couleurs. Tu as un esprit créatif, tu aimes le travail en équipe ou tu voudrais simplement nous faire valoir tes compétences, donne-nous un peu de ton temps. Renseignements disponibles à la station au 67 rue Wellington Nord ou au 566-2787. Implique-toi, c'est ta radio.
CFLX 95,5 FM. La radio communautaire
de l'esprit.
On est de retour sur les ondes de CFLX à l'émission La Rage du Peuple. On va continuer notre entrevue avec M. Arturo, M. Antonio Arturo du Front uni contre le coup d'État au Honduras. On faisait un tour d'horizon pour expliquer un peu pourquoi est-ce que les États-Unis seraient complices dans le coup d'État au Honduras. Donc, on a fait un léger tour d'horizon en termes d'histoire et de guerre. On en était rendu, M. Arturo, à voir comment est-ce que les États-Unis ont remplacé le rôle le rôle de l'influence britannique en Amérique du Sud pour aller avec Theodore Roosevelt et la politique des Rough Riders, aller manigancer des coups politiques. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples aussi de l'ampleur puis des raisons qui les poussaient à faire ça?
Bon, les coups d'État, le but de l'impérialisme, c'est quoi? C'est quoi l'État? L'État, c'est une machine de répression d'une classe sur une autre. L'État, c'est-à-dire, il n'y aurait pas d'État s'il n'y aurait pas deux classes sociales. C'est-à-dire l'État, c'est la machine qui empêche les exploités de prendre le pouvoir et de diriger le pays. Alors, il y a aussi la question de la révolution bolchevique, la révolution communiste en 1917. À partir de 1917, lorsque le peuple soviétique a renversé le capitalisme, pour la deuxième fois, la première, ça avait été la Commune de Paris en 1871. Le peuple de Paris, pendant la guerre entre les Prussiens et la France, les deux gouvernements prussiens et français s'étaient dit « Bon, ben, écoutez, nous sommes en guerre, mais il y a un soulèvement à Paris, il y a la Commune de Paris et c'est très dangereux. » Les Allemands ont dit « Mais bien sûr, messieurs les Français, finissez par écraser vos travailleurs, parce que c'est contagieux, ça, les révolutions. » Alors, il y a eu une trêve entre l'Allemagne, entre la Prusse et la France, et la France, l'homme d'État, a eu la possibilité d'écraser complètement les Parisiens, les révolutionnaires parisiens, qui voulaient établir une société, un pouvoir ouvrier, un pouvoir populaire où les salaires seraient égaux, il n'y aurait plus d'héritage, il n'y aurait plus de propriété des moyens de production et tout ça. Bon, la Commune de Paris de 1871 a été complètement écrasée dans le sang. Les gens étaient déportés à Cayenne et tout ça. Et pendant un certain temps, le socialisme était à genoux en Europe jusqu'à que Lénine se lève, mais avec un nouveau type de parti, le parti bolchevique, très centralisé, très dirigé, théoriquement, organisationnellement, politiquement bien organisé, en regroupant tous les paysans, tous les ouvriers, a renversé le tsar, parce que le tsar n'était plus capable de tenir le coup. La guerre aussi, il y avait une très grande propagande dans l'armée, tournez vos baïonnettes contre vos propres généraux, parce que ce sont eux qui vous forcent à faire la guerre. Alors, la Commune de Paris avait été écrasée dans le sang, mais la révolution de Lénine, du parti bolchevique en 17, a eu une répercussion mondiale. En 1919, dans tous les pays, il y avait des partis communistes qui commençaient à se fonder, qui voulaient arrêter, d'abord ça a été pour arrêter la guerre, et au fond, c'est la révolution d'octobre qui a arrêté la Première Guerre mondiale, puisque la Russie, la Russie soviétique s'est séparée et a laissé les alliés et les deux blocs de pays impérialistes se massacrer les uns les autres. Et dans tous les pays, les ouvriers ont dit, ben, on va faire comme Lénine, nous sommes dans une guerre atroce, il y a eu 17 millions de personnes de tuées, on nous force à tuer nos frères allemands qui sont des paysans et des ouvriers comme nous. Et alors nous allons prendre... Et là, il y avait une possibilité de révolution dans toute l'Europe, alors...
C'est ça qui a poussé les États-Unis à essayer.
Alors, mais après, face au pouvoir communiste ou bolchevique, si on veut, Mussolini en Italie en 1922 invente le fascisme, c'est-à-dire c'est une dictature, mais cette fois dirigé par les patrons et dirigé par... il n'y a plus de parti politique. On fonce et puis on va développer le Mare Nostrum. On va y faire le rêve de Mussolini, c'était de redevenir l'Empire romain. Et Hitler, en 1933, fait la même chose avec la race aryenne, c'est les nazis. Et en 1936, c'est Franco, et le fascisme se développe. Mais il y a aussi cette confrontation, mais je pense que je suis en train de sortir du sujet.
Oui, ben en fait, on en parlait à essayer de voir pourquoi est-ce que les États-Unis, ça c'est à partir de ça qu'on a dérivé, mais est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, comme je pense au Chili en 1973?
Les coups d'État?
Oui, les coups d'État en Amérique du Sud.
Il y a la guerre froide, la soi-disant guerre froide qui a été en vérité une troisième guerre mondiale. C'était une troisième guerre mondiale. La guerre froide, si vous trouvez que 6 millions de Vietnamiens, de Cambodgiens et de Laotiens, c'est une guerre froide, ce n'est pas une guerre froide du tout. C'était les États-Unis qui, à partir de 1948, ont dit, bon, nous étions les alliés de Staline, nous étions les alliés de l'URSS, nous étions les... Alors, mais maintenant, nous avons défait les nazis, nous avons défait les fascistes, et nous avons défait les fascistes japonais, et maintenant, il y a un nouveau grand danger, un rideau de fer est tombé sur l'Europe, c'est-à-dire, c'est le communisme. Et maintenant, toute la contradiction change, maintenant, nous allons unir toutes nos forces contre le communisme, parce que le communisme veut continuer et arrêter mettre fin au capitalisme et instaurer le socialisme.
Fait
et
là,
c'est pas les capitalistes qui vont vouloir ça.
Donc, il y avait beaucoup de communistes au Chili, puis ça intéressait pas les Américains.
Bon, je parle de 48.
Restons-en au coup d'État en Amérique du Sud, s'il vous plaît.
Bon, le Chili, ça a été aussi la peur que, pour la première fois, c'est-à-dire, il y a deux voies, la voie violente vers le socialisme et la voie non violente vers le socialisme. Pour la première fois au Chili, en 1970, a été élue une coalition, un front uni. Ça s'appelait l'Unidad Popular. Et l'Unidad Popular, c'était ça va vous faire plaisir, les anarchistes, les communistes et les socialistes tous ensemble, c'est-à-dire toutes les tendances, en front uni pour essayer d'avoir un gouvernement qui représente la volonté du peuple, qui nationalise le cuivre, et avec l'argent du cuivre qui entre dans les coffres de l'État, on peut payer l'éducation, on peut payer la santé, on peut payer le développement du Chili, on peut acheter d'autres industries et les nationaliser aussi, c'est-à-dire développer de plus en plus une industrie qui appartienne à l'État, une industrie socialiste, où tous les profits vont à l'État et l'État redistribue aux travailleurs et que ça n'aille pas dans les poches des capitalistes, c'est-à-dire la plus-value. C'est ce que on retire de la production et une partie va dans les poches du patron et l'autre partie va dans les poches du travailleur comme salaire.
Donc ce renversement-là, un peu de la dynamique, où est-ce qu'il y avait un mouvement populaire qui prenait le pouvoir, ça plaisait pas aux intérêts américains. Ça a été un peu la même situation au Honduras. Donc il y avait oui. M. Zelaya. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que Zelaya... Oui. Qu'est-ce qui faisait les bases militaires américaines, l'entrée dans l'accord, l'ALBA, c'est quoi l'ALBA, les concessions minières, l'augmentation du salaire minimum, tout ça, c'était des choses que M. Zelaya faisait qui dérangeaient, dans le fond, les États-Unis. C'était quoi c'était comme au Chili, dans le fond, il y avait un pouvoir populaire qui s'installait.
C'est ça. C'est que on n'était même pas rendu au niveau du pouvoir populaire de Salvador Allende, de l'Unidad Popular. Zelaya a simplement voulu suivre la ligne générale de l'Amérique latine. Vous savez que pendant une vingtaine d'années, nous avons eu une série de dictatures, plus que 20 ans. Moi, je viens du Brésil. En 64, nous avons eu un coup d'État militaire. Les militaires, appuyés par les États-Unis, ont aboli tous les partis politiques, toutes les organisations syndicales, paysannes, étudiantes, tous les mouvements démocratiques, et ont installé la torture, la censure, ont interdit la liberté de parole, de presse, d'association. Ça, c'était en 64. Le coup d'État au Brésil était la réponse des États-Unis face à la révolution cubaine de 1959. C'est-à-dire de 59 à 64, les États-Unis ont dit « Bon, ça y est, le communisme s'est installé en Amérique latine, il faut donner une leçon aux latino-américains, nous allons les brûler à feu et à sang et nous allons leur faire oublier toute velléité de devenir socialiste. » on revient un petit peu à la guerre froide. À partir de là, à partir de 48, les États-Unis commencent à faire une série de coups d'État. Le premier coup d'État a été en Iran, lorsque Mossadegh nationalise la Anglo-American Petroleum Company et fait une compagnie d'État où l'argent ira au peuple. Une année plus tard, 1954, au Guatemala, le Jacob Arbenz nationalise la Anglo-American Petroleum, United Fruit, ou la, je ne sais plus le nom exactement.
Ouais, c'est ça, c'était la United Fruit.
Banane,
c'est ça, c'était la United Fruit Company, puis aujourd'hui, ça s'appelle la Chiquita.
Chiquita, oui. Et là, il est renversé. Alors, vous voyez, 52. Ouais, moi, j'ai quitté l'Égypte parce que je suis né en Égypte. C'est très compliqué, mon histoire. Mais lorsque Nasser avait nationalisé le canal de Suez et installé une réforme agraire, chaque fois qu'un peuple a fait quelque chose de bon pour le peuple, chaque fois qu'un gouvernement a fait quelque chose de bon pour le peuple, les États-Unis l'ont renversé. Parce que un peuple se développe, un peuple, lorsqu'un peuple se développe et installe un système humain, ben les États-Unis ne peuvent pas profiter d'un peuple ignorant ou piller les ressources, parce qu'on commence à mettre des lois pour empêcher, par exemple, comme alors revenons en Honduras, quel est le grand péché de Zelaya? Alors, c'était Zelaya, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait augmenté le salaire minimum. Il avait demandé, les bases militaires ne se réinstalleront pas au Honduras. Lui, il venait du Parti libéral, mais tout d'un coup, il avait suivi
la tendance
générale
de gauche,
vers l'émancipation de l'Amérique latine, vers la souveraineté nationale de l'Amérique latine, vers une dignité nationale en Amérique latine, vers des gouvernements qui visent le bien des travailleurs, le bien du peuple en général.
Qui est un peu dans le sillon du Venezuela, de la Bolivie, puis aussi dans une moindre mesure, monsieur le président ou le premier ministre du Brésil dans le temps.
Oui, Lula.
Ouais, Lula.
Oui.
Monsieur Lula, au départ, on pensait que ça allait être beaucoup de changements dans la gauche. Puis je pense que ça a été un peu une déception, si je ne me trompe pas. Mais...
Oui, c'est une déception, mais c'est une déception. C'est-à-dire que, voilà, il y a la voie pacifique et la voie...
Mais bref, c'est pour dire qu'il y avait un mouvement quand même assez de gauche dans l'Amérique latine.
Oui.
Puis Zelaya, lui, voulait rentrer dans le sillon de tout ça.
Lula, je ne le considère pas comme négatif. Le Parti communiste du Brésil appuie Lula parce que la question, c'est en ce moment, c'est de pouvoir donner au peuple brésilien une stabilité salariale. C'est très difficile, mais il y a... des grands efforts qui sont faits dans l'éducation, dans la santé, le Brésil se développe. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va passer à un gouvernement qui va commencer à nationaliser des grands secteurs de l'industrie sans avoir un coup d'État. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de faire une révolution armée? L'expérience montre que le Salvador, le Nicaragua, ça a été très difficile. Ce n'est pas pour cela qu'il n'y aura pas une possibilité un jour.
Donc c'était des révolutionnaires qui voulaient amener un projet un peu comme Zelaya, mais qui n'a pas.
Par la voie armée, mais maintenant la pensée politique, même par exemple le Parti communiste du Brésil qui était dans la guérilla de Araguaia. C'était une guérilla effroyable où c'est un petit peu ce qui se passe en Colombie en ce moment, sans qu'il y ait on ne sait pas ce qui se passe. Il y a 3000 fosses communes. On est en train de massacrer les paysans pauvres et les indigènes. On est en train on a chassé le gouvernement colombien avec les paramilitaires qui coupent des mains, qui coupent des gens vivants. Ils coupent les quatre membres et ils les laissent vivants. Et ils arrivent dans des villages, ils brisent la tête des hommes et ils les mettent dans des camions. Ça, c'est pour créer de la terreur. Ils sont appuyés par les militaires pour expulser des terres des paysans pauvres et des indigènes, pour prendre ces terres-là. 4 millions de Colombiens ont été chassés de leurs terres et les paramilitaires vont vendre ces terres-là aux plus payants, c'est-à-dire les multinationales. Les multinationales de pétrole, de charbon, les multinationales agricoles.
Monsieur Arturo?
Oui.
On va aller faire une pause. On va aller écouter une chanson que vous nous avez suggérée encore. C'est une chanson de soldats durant la guerre civile d'Espagne. Ça s'appelle « Dicen que mi patria es ». Donc, c'est une chanson en espagnol qui parle, dans le fond, de soldats qui refusent d'aller tirer sur d'autres ouvriers au nom des ordres de leur commandant. Donc, on va aller écouter ça. Puis tout de suite après, on va pouvoir aller faire une rétrospective sur c'est quoi les mouvements qui s'animent autour de la solidarité avec les personnes qui résistent au coup d'État au Honduras. Ça marche?
Juste une petite remarque.
Ouais.
Ce n'est pas n'importe quel commandant, c'était Franco.
Oui.
C'était un fasciste.
Ok, donc c'était des gens qui refusaient.
Des fois, on prend les fusils et du côté des bons commandants contre les mauvais commandants.
Ok, ça marche. Donc, on va aller écouter ça.
Son mis hermanos que están labrando la tierra.
Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra.
Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra.
Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos.
Ay que yo tirara que sí, ay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo.
En contra de los obreros,
mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros.
La guerra que tanto temen no viene del extranjero,
son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros.
Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos.
Hay que yo tirar a que sí, hay que yo tirar a que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él.
Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía.
Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día.
Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos.
Ay que yo tirara que sí, ay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Ay que yo tirara que sí, ay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
CFLX FM
Sherbrooke 95,5
La radio communautaire de l'Estrie.
On est de retour en onde à CFLX avec Monsieur Antonio Arturo. Monsieur Arturo, vous parlez en tant que, je suppose, membre ou organisateur du Front uni de contre le coup d'État au Honduras. Comment est-ce que les gens au Honduras...
J'aimerais corriger un petit peu. Je ne parle pas au nom du...
Non?
Allô?
Okay.
C'est parce que c'est ça, c'est...
Vous n'êtes pas porte-parole.
Mes opinions personnelles.
Ça. D'accord, ça marche.
Oui.
Donc, dans le fond, comment est-ce que les gens ont réagi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de manifestations? C'est quoi les moyens que les gens se donnent au Honduras pour lutter contre le coup d'État?
Au Honduras, moi, je pense que c'est un travail de maintenant de... Il y a le Front national contre le coup d'État du Honduras. Le Front national se mobilise, le Front national se prépare, je pense, à une longue résistance, parce que les États-Unis montrent clairement que de plus en plus, ce n'est pas seulement Honduras, c'est l'ouverture de bases militaires en Colombie qui commence à devenir un problème très grand. Les États-Unis sont prêts à mettre l'Amérique latine à feu et à sang. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont mis à feu et à sang, mais cette fois-ci, ils se retrouvent devant un ennemi beaucoup plus vaste, beaucoup plus démocratique. Je veux dire, ce sont des gouvernements. Ils se trouvent devant des gouvernements qui veulent le socialisme ou qui veulent des mesures de plus en plus socialistes. Et la question, c'est que ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent déchirer en deux l'Amérique latine. Et ils ont une marionnette, un fantoche, un fasciste qui s'appelle Uribe Vélez. Uribe, c'est le président de la Colombie, qui a monté tout cet arsenal paramilitaire, qui a été un des créateurs des paramilitaires. Les Autodefensas Unidas de Colombia, les AUC, ce sont des groupes de gens qui étaient financés par les patrons pour empêcher les attaques de la guérilla. Et peu à peu, ces paramilitaires, appuyés par les militaires du gouvernement colombien, appuyés aussi par des armes venues des États-Unis, des hélicoptères Black Hawk, et tout ça, et aussi des conseillers militaires des États-Unis qui sont en Colombie, ont commencé à non seulement repousser la guérilla, mais à aller voler les terres. Les paramilitaires ont commencé à voler les terres des petits paysans pauvres et des Amérindiens pour les remettre à des personnes qui ont plus d'argent, c'est-à-dire des grands propriétaires fonciers et des... compagnie transnationale. C'est un petit peu ce que les conquistadors avaient fait, c'est de chasser tout le monde et de prendre les terres et d'installer des Espagnols ou d'installer des... dans ce cas-là, c'est d'installer des personnes. Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes dans un stade où l'agriculture est en train de s'industrialiser. Les compagnies comme Cashgill ont des milliers de têtes de bétail. Ce n'est plus... un petit paysan qui a quelques têtes de bétail qui va aller vendre ses produits agricoles et d'élevage au marché du coin. On veut des containers, on ne veut pas un camion plein de pommes de terre ou de maïs, on veut des containers. C'est pas rentable, c'est comme les ateliers artisanaux, les artisans du Moyen-Âge. Et peu à peu, il y a eu l'industrialisation, la machine à vapeur et tout ça. Maintenant, l'industrie de l'élevage se fait mécaniquement, les vaccinations mécaniquement, les poulets, les cochons. Il y a des, par exemple, les fermes sont mécanisées, sont hyper mécanisées. La main d'œuvre est de moins en moins nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vole les terres et on va les donner aux grandes compagnies. Agro-pastoral pour de l'élevage, pour planter.
Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'ils vont faire, le nouveau président du Honduras va faire avec le Honduras? La personne qui a fait le coup d'État au Honduras, est-ce que vous pensez qu'elle va permettre les bases militaires américaines?
Ah oui, mais c'est ça, c'est que Zelaya... Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. D'où vient l'appui militaire de Micheli, mais on l'appelle Gorilletti, Micheletti. Micheletti, c'est le faux président,
le fantoche,
putschiste. Oui. Celui-là, c'est c'est un nouveau pion des États-Unis, clairement des États-Unis là. Le gouvernement de Uribe, c'est clairement un petit peu Israël dans le monde arabe. C'est Israël qui écrase les Palestiniens, on peut pas faire cette analogie du tout, ce n'est pas la même chose.
Mais, Monsieur Arturo, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue.
Donc, on n'a pas parlé de Honduras beaucoup.
Non, hein?
Non.
Donc, je vous remercie, M. Antonio Arturo, d'avoir expliqué un peu le contexte du coup d'État en Argentine, au Honduras.
D'accord.
Et donc, pour ceux-là qui sont intéressés à réécouter l'entrevue, elle va être disponible sur notre blog ucl-sherbrooke.blogspot.com.
Et vous pouvez m'écrire aussi.
Oui, c'est quoi votre adresse courriel, monsieur?
pueblo@commercialsimpatico.ca. Très facile. Pueblo, c'est le peuple. Mm-hmm. @commercialsimpatico.ca.
Donc, est-ce que vous avez une annonce, une manifestation, un site internet que vous invitez?
Nous sommes en train de préparer. Nous allons voir comment est-ce que nous allons entrer en contact avec le NPD, avec les différents partis pour expliquer la situation et aussi voir comment est-ce qu'on pourrait faire une campagne parce qu'il y a des T-shirts qui sont fabriqués au Honduras. Il y a plusieurs moyens de commencer à faire connaître la situation. Les médias n'ont rien expliqué, n'expliquent, déforment tout. Alors, c'est important qu'il y ait des citoyens qui se lèvent.
Je vous remercie beaucoup. Puis, pour les auditeurs et auditrices, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.